RCF.
Ce qu'on a évoqué précédemment, Père Kyriane, c'est très beau. Jésus qui descend au plus bas et qui va proposer la vie à ceux qui étaient morts. Traditionnellement, on dit que c'est le jour du samedi saint que ce moment a lieu. Si on se met par contre à la place des disciples, de ceux qui ont accompagné, qui ont cru en lui, qui ont tout misé sur lui, qui ont vu en lui leur sauveur, le sauveur, la déception a dû être totale. Ça aussi, ça peut nous parler à nous aujourd'hui, d'être désorientés, ne plus trop voir le sens des événements.
Comme si le sens de leur vie leur était ôté. Ils avaient découvert un ami incomparable, un maître, plus grand que tous ceux dont ils avaient entendu parler. Donc on peut dire que la vie était devenue pleine, aventureuse, voilà, sans perspective finie. Et puis tout d'un coup, ça s'arrête. Et puis de manière ignominieuse, qui plus est. Retourner à leur solitude, peut-être même quoi, comme on dit, devant l'horreur sidérée, au point même peut-être d'être empêchés, d'être en relation par la parole entre eux. D'ailleurs, ils se tairaient, ils avaient peur. Ils se tairaient dans un lieu clos, on ne sait pas bien exactement où, dans Jérusalem.
Ce qu'on sait, c'est que très peu d'entre eux, manifestement, étaient au pied de la croix.
Oui, tout à fait, sauf Marie et le disciple que Jésus aimait, et c'est en Saint Jean. On voit moins cela dans les synoptiques. Alors, on a des traces de cela, sans avoir à imaginer beaucoup. On nous dit cela en Jean 21. On voit Simon-Pierre, qui est toujours un peu le plus avenant, le plus décisif aussi, qui dit « Allez, retournons pêcher ». Dans tout ça, on entend le désabusement, quoi. C'était une belle parenthèse. On retourne au métier précédent, on retourne au lac qui était le nôtre, on retourne dans nos lieux habituels, où Jésus nous a trouvés il y a 3 ans. Une grande, grande expérience de la perte. Ou bien les témoins dits d'Emmaüs, hein, c'est ces deux qui partent vers le village à quelques kilomètres de Jérusalem, et voilà que, chemin faisant, ils rencontrent un étranger et disent « Mais enfin, on ne comprend plus rien, quoi. On espérait vraiment ce maître-là, on pensait que c'est lui qui allait nous sauver. Et puis surtout, on était si heureux d'être à ses côtés, et on est perdu. On ne comprend plus, on ne se reconnaît plus nous-mêmes, on est dévitalisé. »
Peut-être que toutes sortes d'émotions, d'ailleurs, les ont traversées, parce qu'ils étaient pleinement humains, eux aussi.
Bien sûr, bien sûr. Et c'est ce qui est beau, c'est ce qui fait qu'on peut se reconnaître en eux et qu'ils peuvent nous aider, nous-mêmes.
Mais ça ne s'arrête pas là.
Et ça ne s'arrête pas là, on connaît la suite de l'histoire, effectivement. Mais on voit bien qu'elle a repris lentement. Je pense à un livre d'Éric Emmanuel Schmitt, « L'évangile selon Pilate », qui est construite en roman policier. On est comme témoin de ce que les disciples vont découvrir progressivement, mais très progressivement. Un indice, puis un deuxième, puis un troisième. Mais finalement, peut-être que notre maître est revenu à la vie. Peut-être qu'il vient nous visiter. On me dit qu'un tel jour, à tel endroit, l'aurait croisé. Et du coup, on s'y précipite. Ah ben, il est parti, c'est terminé. Mais il y avait comme un temps de retard. Voilà. Et donc ça s'accumule, ces indices-là s'accumulent jusqu'au jour où eux-mêmes sont bénéficiaires d'une rencontre. Mystérieux, on ne sait pas trop à quoi ça ressemblait. Les évangiles ne sont pas très descriptifs et certainement très bien assis. Voilà. Mais cette foi grande, à tel point qu'ils en ont écrit des évangiles, des pages d'évangiles, que le Seigneur est venu les retrouver. Ouais, ça me fait penser à... Parce que c'est toujours intéressant de voir comment on peut faire ce chemin ici même, hein, ici-bas, aujourd'hui, en France. Je crois que je vous l'ai dit, que j'ai eu la chance d'avoir été choisi comme aumônier de l'Arche à Lyon, l'Arche, une communauté de personnes atteintes de handicap mental, avec des assistants qui sont pour la plupart volontaires, mais aussi des professionnels qui vivent avec eux. Et moi, je vais en moyenne 2 fois par semaine les visiter pour se barrer la messe, mais aussi prendre un repas, faire la fête. Et donc, comme vous le savez, l'année dernière, quasiment à l'époque, nous avons appris de manière sidérante les abus qu'avait perpétré Jean Vanier, le fondateur de cette communauté, qui est devenue internationale. Il y a une 40aine de communautés en France et il y a quasiment autant de pays à l'étranger. Donc, c'est une grande, grande fécondité. Et on découvre que le fondateur, lui-même, était un lieu de scandale et un lieu terrorisant pour des femmes qui ont un mal fou à s'en remettre. Et donc, on avait organisé tout un après-midi pour progressivement essayer de faire entendre ça à l'ensemble de la communauté. Les personnes accueillies, les assistants, les bénévoles, les amis, les familles étaient invitées. Grand amphithéâtre. Et à un moment de cet après-midi, au moment des premières images et des premières paroles, Il y a Yves qui se lève, qui est atteint d'un trisomie 21, et qui dit « Ah non, c'est pas bien Jean. » En fait, il l'avait rencontré une fois ou l'autre, Jean Vanier. « C'est très mal Jean. » Il s'assoit. Il était tout recourbé. J'avais vu, il était trois rangs devant moi. Bon, et puis l'après-midi continue, on se retrouve en petit groupe pour mieux s'expliquer, on regarde des dessins, pour essayer de faire comprendre autrement que par la parole à ces gens-là. Et puis on se retrouve plus tard, en fin d'après-midi, pour un temps de célébration, de prière. Et Yves vient à mes côtés, il demande à prendre le micro, comme souvent, c'est très spontané à large. Il vient prendre le micro, et me dit « j'ai quelque chose de très important à dire. » Eh bien, c'est grâce à Jean Vanier que je suis ici. Moi, j'ai très très peur que mes parents meurent. Le jour où mes parents seront morts, il n'y aura plus que l'arche, et c'est grâce à Jean. Mais Jean, il a fait quelque chose de très mal. Maintenant, c'est grâce à vous que je vais rester. » On était tous très émus, moi je pleurais. Et en fait, ce garçon-là, Yves, en l'espace de 3 heures, il a fait un chemin, pour moi, de résurrection. Il est passé de la sidération, sa vie était devenue comme insensée, celui grâce à qui il était là en vie et en relation avec beaucoup d'autres, et de manière sécurisante, venait de tomber dans son estime, et voilà qu'il a retrouvé un nouveau point d'appui, c'est la communauté de l'Arche aujourd'hui, telle qu'elle est.
Kyriane, le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ, c'est un passage. C'est d'ailleurs le sens du mot Pâques. Mmh. C'est ce qu'a vécu Yves, dont vous nous parliez il y a un instant.
Et en effet.
Donc il est passé d'un état, d'une situation bloquée, un peu mortifère,
tout à fait,
à quelque chose d'ouvert, une vie possible. Ça, c'est quelque chose dont on peut faire une analogie avec l'ensemble de nos vies, et plusieurs fois dans une même vie.
La vie, c'est l'avenir ouvert, de pouvoir se projeter demain encore. Yves, il a connu une véritable réouverture du cœur, plus encore que de l'intelligence, plus encore que de son corps qui est à rassurer, on peut dire.
Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une résurrection ?
Je crois que oui, au sens où c'est un relèvement. La résurrection, c'est se tenir debout, pouvoir marcher et être avec d'autres. Être en communion avec ceux qui sont vivants. Ceux qui sont vivants, c'est mes contemporains. Ceux qui sont vivants, c'est Dieu par excellence.
C'est une résurrection symbolique. Parce qu'on dit que le Christ est mort et ressuscité. Mmh. Est-ce que pour nous, c'est quelque chose qu'il faut interpréter d'une manière beaucoup plus... c'est une image, quoi. C'est un symbole.
Là, on parle de résurrection dans une vie où on n'est pas mort corporellement. Voilà. C'est-à-dire qu'on retrouve du goût à la vie. On entre à nouveau dans le mouvement, dans le cours de la vie. Et on a besoin, effectivement, plus d'une fois dans notre vie, de pouvoir rebondir, comme on dit. Cela nous est donné ou ça ne nous est pas donné. Mais si ça nous est donné, on se dit « Waouh !» Il y a quelque chose qui m'a permis de reprendre le fil, le cours de la vie. La résurrection, c'est passer de la mort à la vie. Alors, dans ma vie, je peux effectivement, comme vous le disiez, passer par différentes expériences comme ces, par ces petits passages, les uns après les autres qui s'accumulent. Mais la résurrection avec une majuscule, celle du Christ, c'est celle de la vie éternelle. Donc là, on est dans un mystère plus grand encore. Mais c'est peut-être parce que le Christ est ressuscité et nous a conduit à la vie éternelle, c'est-à-dire sans fin, que ici même, je peux déjà en bénéficier. Si j'y crois... Si j'ai des gens qui, autour de moi, y croient en la vie, en le passage de la mort à la vie, alors certainement j'entre progressivement dans ce cours du temps qui devient le mouvement de l'éternité.
Parce que Jésus l'a vécu avant nous ?
Tout à fait. Nous nous reposons sur son expérience.
Quand saint Paul dit « nous sommes ressuscités avec lui », qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est-à-dire que nous sommes pleinement bénéficiaires, et ça veut dire que nous sommes... d'une certaine manière, mais c'est saint Paul aussi qui le dit, dans le même corps que lui. Nous sommes tellement reliés les uns aux autres que nous formons un seul et même corps. Nous sommes membres d'un corps unique, le corps du Christ, qui est tout entier vitalité, vie, résurrection.
N'empêche que le fameux passage, parfois, il est rude, il est difficile.
Bien sûr.
Ouais. Il peut être terrifiant.
C'est là où on revient sur le mot passion, oui. Passion, désespoir, désespérance, incompréhension. Et ça peut durer très longtemps. Quand, bon, il se trouve que donc, j'accompagne notamment des novices, hein, des jeunes qui essaient d'avancer dans la vie spirituelle, et les deux années de noviciat ne sont pas toujours faciles. Quand l'un ou l'autre est paumé, y compris jusque dans le doute par rapport à l'essence de Dieu est très présente en sa vie, quant à, au choix qu'il pensait faire de sa vie en devenant religieux apostolique. Bon, alors on parle de cela, évidemment. Mais d'une manière ou d'une autre, je joue un peu comme les abbas des pères du désert. Hein, retourne à la terre. C'est-à-dire, va jardiner, va cuisiner, occupe-toi de tes frères.
Pourquoi ?
Parce que la vie, elle est concrète. Et que dans ma tête, je peux me paumer en étant abstrait de la relation fraternelle, de la relation matérielle. Voilà. C'est en touchant la terre du jardin, en touchant la nourriture que je vais offrir à mes frères le soir en faisant un bon gâteau, que je me rappelle que la vie continue. Ça, ça ne peut pas mentir.
Finalement, ça passe par des choses assez simples.
Oui, bien sûr.
Dans le quotidien.
Bien sûr. Et progressivement, ça refait un fil au fond de moi-même.
On vous retrouve demain pour conclure.